Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
Et à 19h19 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec l'ancienne présidente du MEDEF. Bonsoir Laurence Parisot.
Bonsoir Marc-Olivier.
Avec la journaliste Hélène Pilichowski. Bonsoir Hélène. Avec le rédacteur en chef au Figaro Magazine, bonsoir Jean-Christophe Buisson.
Bonsoir.
Et avec le producteur Xavier Couture, bonsoir Xavier.
Bonsoir Marco.
Alors avant de commenter évidemment les mesures annoncées par Manuel Valls cet après-midi, vous avez vu la une de Charlie Hebdo, le Charlie Hebdo des survivants, comme on l'appelle maintenant, le prophète Mahomet pleure dans ses mains d'écriteau, je suis Charlie, et cette légende, tout est pardonné, une couverture dénoncée par les autorités musulmanes égyptiennes. Alors cette une... avec le prophète, est-ce une bonne idée, on va dire les choses simplement, sobrement, sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret?
C'est partagé, comme j'ai coutume de dire, mais Agnès ricane déjà. Vous attendiez à quoi exactement? À un revirement total? Vous êtes crédule ou vous le faites exprès? Goofy aurait préféré la découvrir demain, en kiosque que sur Twitter. Mais Mahomet, avec une tête de bite, je suis pas déçu, concède-t-il. J'aime ce journal irresponsable, bravo, applaudit Mestelan. Julien s'attendait même à pire, je la trouve belle et apaisante, il fallait pas tomber dans la surenchère. Mais Biesse trouve cela très limite de blasphémer, alors que suite à l'attentat, il y a un gros regain d'islamophobie. Qu'est-ce qui prouve que c'est le prophète et pas juste un homme barbu? Arrêtez de mettre de l'huile sur le feu, respectez un peu, lance Trika. Le HuffPost cite l'imam de Bordeaux qui assure que cette nouvelle une de Charlie vise l'apaisement, que c'est même un acte de gentillesse. Oui, enfin, islam modéré, ça veut pas dire que si vous mettez le prophète en caricature, on va rire ensemble, hein, prévient Sabah. Charlie Hebdo a le droit de dessiner et le prophète autant que des musulmans ont le droit d'en être choqués et de le dire. C'est quoi le problème, résume Guillaume. Poher rappelle pour finir qu'on vit au 21e siècle et que la lecture de Charlie Hebdo n'a jamais été obligatoire.
C'est quoi le problème? Est-ce que vous envoyez un problème, Xavier Couture, ou pas du tout ce soir?
Non, moi, j'en vois absolument aucun. On ne va pas imaginer, parce qu'il y a eu un défilé où, pour exprimer la volonté de liberté, on a dit que... on était tous Charlie, que pour autant, Charlie Hebdo allait changer d'éditorial. Et moi, je suis ravi qu'ils n'en changent pas. Très honnêtement, ils ne sont pas détenteurs d'une position unanimiste qui ferait de la France un pays capable d'accueillir toutes les différences du monde. Ils restent sur leur position, et honnêtement, cette une, elle est drôle. Je dirais tout de même qu'il y a tout de même un petit clin d'œil à la société française avec « tout est pardonné ». Et on voit bien qu'il y a un effet d'entraînement de cette manifestation, un effet d'entraînement qui est repris par les dessinateurs. Et le journal, tout en restant ce qu'il est, prend en compte ce qu'a été le mouvement qu'il a soutenu. Et je trouve que cette une est d'une astuce, d'une intelligence exceptionnelle, à la fois parce qu'elle retrace, elle dit ce qu'est Charlie Hebdo, et en même temps, il y a ce petit clin d'œil qui dit « on a quand même vu que vous étiez derrière nous ».
Oui, c'est une une tout à fait Charlie Hebdo. On voit par ce dessin que il ne lâche pas prise, que dans la tradition qui revient d'ailleurs, qui part d'Harakiri, ils insistent et ils n'ont pas peur ainsi de dessiner Mahomet. Mais moi, je dirais, mais tout doucement, que je suis fière d'avoir été avec des millions de Français dans la rue dimanche pour que Charlie Hebdo puisse dire tout ce qu'il veut, y compris sur la religion, y compris sur l'islam. Il n'empêche que, d'une manière générale, auparavant, je n'aimais pas trop les unes de Charlie Hebdo, je n'aime pas beaucoup celle-ci. Et alors, pour vous dire... ça, c'est tout à fait extraordinaire que je puisse prononcer ce que je vais prononcer. Préfère la une du Canard Enchaîné. Celle de demain, je la trouve magnifique. Ouais.
Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette une-là de Charlie Hebdo, comme dans les autres, finalement? Le fait déjà de dessiner le prophète, ça vous dérange pas?
Non, en soi, ça ne me dérange pas. Je voudrais simplement qu'on, dans ce moment d'unité, d'union, de rencontre aussi, hein, je vois beaucoup de gens qui, tout d'un coup, vont vers nos compatriotes musulmans d'une manière tout à fait différente de ce qui était le cas il y a quelques jours encore. Mmh. Je trouve que dans ce moment de rencontre, je pense qu'il est plus important de mettre l'accent sur le respect, le respect mutuel. Et on sait que certains vont trouver demain qu'il y a un manque de respect. Et en même temps, je nuancerai moi-même ce que je viens de dire, parce que ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que beaucoup d'imams ont dit et ont interprété cette une, comme vient de le faire brillamment Xavier Couture, comme une qui également leur rend hommage. nos compatriotes musulmans.
Jean-Christophe Buisson.
Et moi, je trouve que c'est une une drôle et choquante. Drôle, mais choquante.
Ah, choquante, carrément choquante.
Bien sûr qu'elle est choquante. Et on est là, aucun autour de cette table, je pense, n'est musulman, donc n'est susceptible, effectivement, d'être choqué. Mais je pense qu'il est légitime que des instances musulmanes se disent choquées. Le problème, c'est pas d'être choqué, de la même façon que c'est normal que des instances catholiques puissent être choquées par certaines unes de Charlie Hebdo. Le problème n'est pas d'être choqué. De sa manière, ils sont dans leur rôle, dans leur registre. Le problème, c'est d'être choqué au point de lancer des fatwas, au point de brûler en place publique le journal ou des drapeaux, des choses comme ça. Mais c'est normal que des instances religieuses, en tout cas l'islam qui considère qu'on ne doit pas montrer le prophète, soient choquées par cette une. Après, on est choqué. Il peut même y avoir des procès. Je trouve ça sain qu'il y ait des procès. Et puis les procès, finalement, déboutent les caricaturistes comme c'est arrivé. Et ça, ça s'appelle la démocratie. Ça
s'appelle
la République française.
Sauf que la question finalement de ce soir, choqué on l'entend, mais est-ce que c'était le moment de choquer? Donc finalement, c'est ça la question de ce soir. C'est pas Hélène Petit-Joffi.
Mais attendez, je pense qu'il y a 4 millions de personnes qui ont défilé. Sur ces 4 millions, il y a 3 900 000 qui n'ont jamais lu Charlie Hebdo et qui vont découvrir Charlie Hebdo et qui vont découvrir que Charlie Hebdo, c'est pas Mickey Parade. C'est quand même des caricatures hyper violentes, hyper choquantes. Et là, les masques vont tomber d'une certaine manière parce que certaines personnes qui ont défilé dimanche, comme par exemple le Premier ministre de la Turquie, qui met en prison des cartoonistes qui osent dire ils ont été un peu forts, 10 ans de prison ont été suffisants pour Charlie Hebdo, et ces types-là, ils vont en prison en Turquie. Donc, effectivement, Charlie Hebdo n'avait pas forcément à mettre de l'eau dans son vin, ils sont dans leur registre, mais maintenant, tous ceux qui ont défilé pour cette bonne cause vont devoir assumer le fait que Charlie Hebdo, sa nature, c'est celle-là, et encore une fois, elle peut choquer, et certains diront, elle doit choquer.
Oui, moi personnellement, j'ai pas trouvé ça choquant parce que effectivement, on peut pas avoir eu 3 millions de Français qui ont défilé dans la rue dimanche avec le badge je suis Charlie et puis que Charlie fasse un numéro spécial qui ne soit pas Charlie. Donc ils sont dans leur logique. Alors leur logique, c'est la provocation mais presque abusive, on va dire, qui va jusqu'à Mahomet, jusqu'à prendre des risques terribles. Mais bon, dans la mesure où tout le monde est là pour essayer de comprendre, pour essayer de montrer que on peut caricaturer et pas être soumis à des fatwas, comme vous dites. Donc moi, je pense que c'est bien d'être allé jusqu'au bout. C'est même courageux. Mmh. C'est même courageux quelque part. Et ça oblige les gens qui vont le lire à comprendre que finalement, eh ben, on va voir cette une très provocante, et finalement, on peut l'admettre. C'est le moment, peut-être, de l'admettre, si vous voulez, au lieu de dire, oh, bah, ils vont trop loin. Non, ils vont pas trop loin, ils sont eux-mêmes. Donc, après tout, alors, vis-à-vis des autorités musulmanes, ça peut être l'occasion de leur dire, bah, exprimez-vous maintenant, parlez, mais parlez sans prendre une kalachnikov, parlez en disant, on trouve que c'est de la provocation abusive, on trouve que c'est pas bien, c'est de l'irrespect, pour nous, c'est terrible, ça va au fond de nos tripes, ça nous choque, voilà.
Expliquez, quoi. Expliquez, Laurence Parizeau.
Je comprends que Charlie Hebdo ait fait ça. Je défendrai toujours, toujours leur droit à faire ça. J'espère néanmoins que certains ne vont pas prétexter cela pour recommencer. Mmh. J'espère que tout le monde a bien réfléchi aussi à ça.
Non mais ça, moi je ne peux pas laisser dire ça, parce que c'est trop grave de dire que ça pourrait être un détonateur. Le détonateur, ce n'est pas le fait qu'il l'ait fait. Le détonateur, c'est qu'on vit dans un pays qui laisse la possibilité de le faire. Alors ne confondons pas la cause
Xavier,
et la conséquence.
Je suis tout à fait d'accord avec cela, et c'est bien pour ça que, encore une fois, je dis que je me battrai toujours pour qu'il le fasse. Mais il y a des moments et des circonstances.
Moi, je ne connais pas les moments auprès Xavier, de la liberté d'expression.
Enfin, je ne veux pas en dire plus que cela, parce que je pense aussi que ce n'est pas la peine non plus de dire tous les risques qu'on peut imaginer dans ces circonstances-là.
Mais quand on commence à plier, on plie.
Non,
on plie.
Vous savez bien que je ne suis pas du genre à plier.
Mais je sais, c'est pour ça, Laurence, que je me permets de ne pas être d'accord avec vous ce soir.
Je pense qu'on peut... Attendez. Penser les choses à certains moments. Vous pouvez ne pas plier sur les principes et gérer aussi d'une certaine façon l'agenda.
Je terminerai juste pour dire que si vraiment une information était choquante aujourd'hui, c'est que Daesh était annoncé de manière tout à fait publique avec une sorte de rapport d'activité qu'ils avaient 2 milliards de chiffres d'affaires, 250 millions d'euros avec lesquels ils ont financé les terrorismes à travers le monde, qu'ils comptabilisent dignement dans un document en papier glacé.
Et qu'ils ont fait tuer deux personnes par un enfant de 10 ans aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Très bien, absolument. Mais allons, moi je suis d'accord avec tout ça, mais allons plus loin sur tous les financements. Sur tous les financements qui existe derrière Daesh, directement ou indirectement. Et là, il y a des considérations, y compris économiques, que nous devrions mettre en débat.
De certains pays qui défilaient dimanche, d'ailleurs.
De certains pays qui défilaient, de certains pays qui sont associés à notre activité économique.
Nicolas Sarkozy attend des preuves. Il l'a dit sur RTL lundi, de l'implication du Qatar, puisque c'est de ça dont il s'agit.
Exactement.
À suivre, Manuel Valls, ovationné par l'Assemblée nationale, le Premier ministre qui annonce de nouvelles mesures donc pour lutter contre le terrorisme. On en débat dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
19h31, on refait le monde sur RTL, donc ce soir avec Xavier Couture, avec Jean-Christophe Buisson, avec Hélène Pilchowski, avec Laurence Parisot. Des mesures exceptionnelles, mais pas des mesures d'exception. C'est ce qu'a détaillé Manuel Valls cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre entend répondre aux menaces terroristes contre la France. Alors, je vous récapitule globalement ce qu'il a dit. Des quartiers spécifiques d'ici fin 2015 pour les djihadistes dans les prisons. On détaillera tout à l'heure. Un fichier recensant les terroristes pour mieux les contrôler, finalement, comme les pédophiles. Un renforcement des services de renseignement intérieur et de la juridiction antiterroriste. Et il laisse 8 jours au ministre de l'Intérieur concernant la surveillance d'Internet. Alors, ces mesures, à la hauteur, sur les réseaux sociaux.
Le gouvernement a enfin décidé de se bouger, applaudit Nico. Ça restera une évocation. Je lance les paris, tempère déjà Charles. C'est un bon discours, mais va falloir être vigilant sur les mesures, prévient aussi Tecoub. Écoute, Internet, armée, les sites info détaillent ces premières mesures évoquées par le gouvernement. Bon, les écoutes, on est déjà très bon, semble-t-il, chipote Marianne. Maîtriser Internet à moins d'être Anonymous, bon. Reste l'armée, ouais, bof. C'est les mêmes qui, pour faire reculer le chômage, votent une taxe à 75% et affirment « j'aime pas les riches ». Ça promet, grince Bodag. Charlie, comme beaucoup, regrette la mise en cause d'Internet et rappelle « les faits, ils se sont radicalisés en prison ». Nos politiques en concluent « il faut d'urgence légiférer sur Internet ». Stéphane aussi trouve ça too much. « Vite voter avant que l'émotion ne retombe », écrit-il. « Imaginez si on devait justifier le flicage généralisé des communications ». Annie, au contraire, aurait préféré des mesures d'exception, du solide. « C'est bien dommage, on est encore des guignols », soupire-t-elle. Et à tous ceux qui trouvent qu'on ne frappe pas assez vite, pas assez fort, Cédric répond pour finir « attendez un peu, tous les partis vont travailler ensemble sur le sujet. Ce ne sont que quelques propositions. L'erreur serait de faire comme ce qui a déjà été fait, se précipiter ».
Jean-Christophe Buisson, les propositions du Premier ministre à la hauteur de la menace.
Je suis content que vous utilisiez le mot « proposition » plutôt que « mesure ». Parce que effectivement, ce ne sont pas des mesures. Et avant d'être prises, il va falloir qu'elles soient acceptées, votées, sans restriction, sans qu'une association ou un particulier demande à passer devant la Cour européenne des droits de l'homme en considérant que c'est discriminant, que c'est une entrave aux libertés publiques, etc. C'est pour ça que je suis assez d'accord pour que ça se fasse assez vite, avant justement ce type de conscience... de conscience, certes, se réveille et mettre des entraves à ces mesures qui sont non seulement importantes, mais moi je suis un peu frappé d'apprendre qu'aujourd'hui il n'existait pas de fichier recensant les terroristes. Moi je tombe du ciel en apprenant ça. Je tombe du ciel et en même temps je me souviens du discours de novembre 2012 de Manuel Valls qui attaquait l'opposition dans sa façon d'avoir géré, enfin Sarkozy en l'occurrence, dans sa façon d'avoir géré l'affaire Mera, en disant vous n'avez pas su protéger les Français. Je pense qu'aujourd'hui cette phrase doit tourner dans sa tête parce qu'il y a 17 personnes qui sont tuées, donc ce n'est ni un problème de droite, de gauche, c'est un problème français.
Depuis il y a des lois
mesures
qui ont été votées antiterroristes,
ouais,
et les décrets d'application vont donc être avancés.
Oui, mais on se rend compte qu'il manque quand même des mesures comme un recensement précis des terroristes et des mesures sur les avions. C'est pas fait encore parce que
les avions, il faut l'accord européen. Laurence,
je pense que beaucoup de choses annoncées par le Premier ministre sont tout à fait utiles. Personnellement, je suis soulagée de voir que le gouvernement n'entend pas développer des moyens d'exception. On n'a pas manifesté dimanche pour défendre la liberté, pour se retrouver ensuite restreint sur telle ou telle dimension de notre vie. Mais il me semble que ce dont nous avons besoin en priorité, c'est de moyens. Ce dont la police a besoin, c'est de moyens humains, de moyens financiers, de moyens logistiques. Mmh. Ce dont la justice a besoin, ce dont les prisons ont besoin, ce sont des moyens. Ce dont les services de renseignement ont besoin, ce sont des moyens financiers. Ça veut dire que nous devons regarder le budget de l'État différemment, et se demander tous si nous voulons vraiment hiérarchiser les choses en mettant la police, la justice
et
l'armée, évidemment. Comment peut-on, vous avez tout à fait raison, comment peut-on avoir ce discours et année après année réduire le budget de la défense
nationale?
Mais
tout ça va changer, donc il y a eu un avant et après.
Je ne sais pas, parce que il faut aussi avoir ces moyens d'action immédiat, mais Nous avons également besoin de moyens de long terme ou de moyens de moyen terme. Je pense côté éducation nationale.
On va y venir à la aussi, si on prend l'argent nulle part, on ne va pas le trouver. Hein. Si on ne prend pas, par exemple, la culture, l'éducation nationale, ce qui nous fait très mal au cœur à tous, je ne sais pas où on va trouver les moyens pour renforcer la justice, la police.
On peut aussi revoir les budgets de protection sociale. C'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais il y a bien là aussi un enjeu. C'est pour ça que je dis que ce qui compte maintenant, c'est que nous soyons tous d'accord.
Qu'est-ce que vous voulez dire dans revoir les mesures de protection sociale de personnes spécifiques?
Le budget de l'État ou le budget public de la France, c'est en gros l'éducation nationale, les différentes administrations et la protection sociale. Le budget de la protection sociale est considérable. Si à un moment on se dit mais on peut pas tout faire, si on se dit il faut hiérarchiser. Et si dans la hiérarchie, on met police, justice, éducation nationale, parce que c'est fondamental pour l'avenir, eh bien forcément, comme vous venez de le dire, Jean-Christophe, il va falloir aller chercher de l'argent ailleurs.
Bon, c'est pas...
Hélène Pichowski.
Je pense que les moyens, effectivement, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, mais c'est pas l'unique problème. Il y a une question de mentalité à faire changer. Il y a... c'est très très difficile pour un homme de gauche, quand même, d'être obligé de tenir un discours sécuritaire, et pire encore, de s'entendre dire qu'il va falloir aller taper dans le budget de la protection sociale pour financer le flicage des citoyens. C'est terrible. Et je trouve que, franchement, Manuel Valls s'en est très bien sorti aujourd'hui. Il est resté...
Oui, mais c'est demain qui... nous intéresser. Alors, parce
voilà,
que, parce que aujourd'hui
parce
c'est bien, mais c'est demain.
Encore dans l'émotionnel, il va falloir qu'il s'arrête aussi maintenant.
C'est
et
pas
le
que
président de la République,
là,
hein. il était beaucoup dans l'émotionnel.
Oui, oui, mais c'est l'affirmation de grands
voix qui était terrible.
Oui, mais c'est
mais
des grands
je pense qu'il va falloir oser maintenant dire des choses. C'est-à-dire qu'il va falloir cesser d'être dans cette bien-pensance qui interdit de dire qu'il y a des dangers à l'école, qu'il y a des gens qui sont plus en prison.
Quand vous dites bien-pensance, vous voulez préciser de gauche, c'est ça ce qui suit derrière.
Forcément, la belle-pensance, elle est forcément à gauche, vous le savez bien.
Non, mais je préfère vous le faire préciser.
C'est bien que la droite pense mal, Marc-Olivier.
Je le précise rarement, mais je rappelle que vous êtes la cousine de François Hollande.
Ah, oui, et je ne suis loin de le renier.
Non, non, mais c'est pour ça.
Encore plus fière aujourd'hui.
Je ne suis pas le fils de Patrick Buisson.
Oui, ça c'est bien de préciser, Jean-Christophe Buisson.
Mais il n'appartient pas tant que ça à la bien-pensance.
Non, mais de la gauche. Mais en revanche, il appartient à la gauche.
Absolument.
Je suis un fils couture, alors je suis très fier.
Alors, Xavier là-dessus, puis on va parler après spécifiquement des prisons après la pub.
On parle beaucoup de moyens de réforme. Déjà, faisons ce qui est dans les textes. Il y a une loi qui a été votée, qui est la loi dite Cazeneuve, dans laquelle les applications sont attendues. J'espère que ça va accélérer la publication de ces décrets. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il faut impérativement qu'il y ait une coopération qui soit plus forte entre les différents services de l'État et probablement entre la police, la gendarmerie, ça existe déjà, les services, les différents services de la police et la justice. La justice qui est très désarmée, mais la justice qui a besoin de travailler plus étroitement avec les services de police, ça n'est pas encore complètement le cas. Et je dirais, pour terminer, que sur la dépense de l'État, pendant ce drame qui s'est déroulé, il y a eu un colloque auquel M. Didier Migaud a participé. Et qu'a dit Didier Migaud, président de la Cour des comptes? Il a dit, vous savez, la problématique principale en France, c'est peut-être pas le montant des prélèvements, c'est peut-être pas le montant de l'argent public, c'est pas le montant, ces fameux 57% qui font qu'aujourd'hui la dépense publique est considérée comme extravagante dans ce pays. Ce qui est extravagant, c'est le manque d'efficacité de la dépense. Mmh. Et que Didier Migaud, président de la Cour des comptes, dit ça, ben ça s'applique aussi à la police, ça s'applique aussi à la défense que nous pouvons avoir contre
les... Allez voir les moyens informatiques
mais
de la police.
C'est vrai.
Allez voir leurs voitures.
C'est vrai. Quand on parle d'Internet, on parle d'un Internet 1.0 et je sais très bien tout ça.
Les effectifs de la police qui n'ont pas cessé de baisser.
Oui.
Depuis le début du mandat de Nicolas Sarkozy.
Ce qui veut dire que les moyens sont mal affectés, on est bien d'accord.
Les gars sont épuisés, il n'y a absolument pas de renouvellement d'effectifs. Il y a quand même un enjeu financier, y compris pour gagner en efficacité.
C'est clair, mais reconnaissez avec moi que si on dépensait mieux l'argent, peut-être qu'on pourrait avoir plus de fonctionnaires de police sans prélever tellement plus.
Ça, je suis tout à fait d'accord.
Dans un instant, on va parler spécifiquement des prisons.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde, Marc-Olivier Fauchiel.
19h42 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Laurence Parisot, avec Jean-Christophe Buisson, avec Xavier Couture et avec Hélène Pilichowski. La prison, école du djihadisme. Depuis la semaine dernière, le débat autour du rôle des prisons dans la radicalisation fait rage. Et à l'image donc de ce qui se fait à Fresnes, Manuel Valls annonçait que les détenus radicalisés seraient réunis dans les quartiers spécifiques d'ici la fin de l'année. Pourtant, les islamistes identifiés en prison ne seraient que 152. Alors ce regroupement va-t-il empêcher les radicalisations. Est-ce un effet d'annonce sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Ben, les internautes semblent plutôt pour. Marloufi demande même pourquoi ça n'a pas été fait avant, mais beaucoup de questions et de remarques. Seront-ils en huis clos, sans aucune intervention extérieure ni contact avec les autres détenus ? Sinon, c'est inefficace, prévient Michael. On les construit avec quels sous, ces quartiers, s'inquiète Nia. Surveiller n'est pas réinséré, rappelle Fiocha pour sa part. Pour Lily, ça rappelle les QHS du temps de Nesrine, les inhumains quartiers de haute sécurité. Faisons des camps, ça sera plus efficace et moins hypocrite, lâche même la mairie. Pour finir, Jean-Louis remarque que les quartiers spécifiques où l'on enferme des gens, ça existe déjà, on appelle ça les banlieues.
Jean-Christophe Buisson, dans Le Monde, un spécialiste de la radicalisation des banlieues, explique que c'est une très mauvaise solution parce qu'en fait, on ne peut pas tous les mettre dans le même sac et c'est la meilleure façon finalement qu'ils s'entraînent entre eux, entre ceux qui reviennent de Syrie, qui sont désabusés et qui vont être finalement réembrigadés par ceux qui sont là et qui sont des purs et durs.
Alors, il y avait un rapport de Guillaume Larrivé il y a quelques semaines ou quelques mois qui expliquait de façon très claire le problème des imams qui radicalisent les autres, c'est qu'ils le font de façon invisible. C'est-à-dire qu'ils sont très difficiles à repérer. Vous avez donné le chiffre de 150. Il est évident qu'il y a plus de 150 sur les milliers de personnes qui sont susceptibles de radicaliser d'autres détenus. On sait bien qu'il y en a plus de 150, mais ils le font de façon très discrète. Mmh. Le problème, c'est effectivement... Oui, moi je suis assez favorable à cette idée d'isolement, sauf que effectivement ça doit pas être seulement une question d'hébergement mais d'activité. C'est qu'aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que dans les prisons, par exemple, la prière, c'est pas dans une salle de prière, c'est pendant la promenade, c'est dans les coursives, c'est partout, c'est n'importe où. Le problème c'est que l'État français, au nom de la laïcité, dit on n'intervient pas là-dedans. Si, il faut intervenir là-dedans. Il faut effectivement isoler, mais isoler totalement, isoler y compris la télévision, y compris les rapports avec les autres. Mais si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement, il y aura des recours à la Cour européenne des droits de l'homme, encore une fois, pour dire il y a discrimination. Au nom de quoi vous nous isolez ? Vous nous suspectez d'être des imams qui allons radicaliser ? Au nom de quoi vous faites ça ? Et ils auront peut-être la possibilité de recourir à ce type de... D'où, je pense, l'appel de Manuel Valls aux institutions européennes pour l'aider dans cette lutte-là.
Vous avez entendu tout à l'heure Christiane Taubira, qui était à la prison de Fresnes sur RTL, être beaucoup plus calme sur le sujet que Manuel Valls, expliquant qu'il y avait des tests en cours, qu'il fallait attendre, il fallait avoir le résultat des tests avant voir l'efficacité.
Et un dernier mot, c'est juste aussi une question de moyens, parce qu'effectivement, si on les isole, ça veut dire qu'on libère des cellules et donc on entasse encore plus des prisonniers dans d'autres cellules.
Moi, ce qui me fait peur, même si globalement je reste pleine d'espérance, parce que ce qu'on a vu dimanche est absolument extraordinaire et historique, mais ce qui me fait peur, c'est que au fur et à mesure qu'on va voir ce qu'il faut faire et comment on va le faire, on va réaliser que nous sommes dans un état d'appauvrissement tel que nous allons manquer de moyens, de logistique, de ressources humaines pour faire les choses. Si il s'agit de séparer, de préserver les jeunes délinquants qui ne sont pas encore en voie de radicalisation d'une population qui est déjà manifestement radicalisée, si c'est ça, bien sûr qu'il faut le faire. Et je suis d'accord pour dire que c'est tout à fait étonnant que ce n'ait pas été fait jusqu'alors. Mais toutes nos prisons sont de ce point de vue-là à repenser. Le rapport du député Guillaume Larrivé était tout à fait intéressant et a été hyper critiqué à sa sortie. Juste une chose, je voudrais préciser une histoire qui m'a beaucoup marquée. Il se trouve que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer et je suis toujours en contact avec Mourad Benchelali, qui est un Français de Vénissieux, qui a été pris en Afghanistan juste après le 11 septembre et qui a été isolé à Guantanamo pendant des années. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, au contraire, veut dire les choses, le danger, et essaye d'empêcher des jeunes de se laisser prendre par ces fous. Et il raconte très bien comment, à Guantanamo, quand vous êtes en prison isolé, vous n'avez accès qu'à un seul livre. Un seul. Vous n'avez accès qu'à une seule culture, si je puis dire, si le livre est la culture. Et ce livre, c'est le Coran. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit effectivement que tout notre système pénitentiaire est aussi, de ce point de vue-là, à repenser.
Non, mais le problème, Hélène. L'idée, c'est surtout de ne pas mélanger, de ne pas faire que ça fasse tache d'huile. Mmh. Si vous voulez, ils ont leurs convictions, on va les mettre ensemble. Ils sont pas forcément à l'isolement un par un dans une cellule. Ils sont dans un quartier commun, c'est ça l'idée.
Mais c'est ça le problème que décrit le spécialiste de la radicalité dans le monde. Il dit qu'ils sont pas les mêmes, parce qu'il y a les dangereux, il y a les déçus, il y a les traumatisés, et que
sûr,
finalement...
Il va falloir faire les choses intelligemment, ça c'est ça. Mais éviter surtout qu'ils contaminent des jeunes garçons qui sont là parce qu'ils ont commis un vol ou parce qu'ils ont des choses plus graves ou une attaque à main armée, etc., qui étaient peut-être très très loin de l'islamisme radical et puis qui se trouvent confrontés et qui sont des réceptacles idéaux, si vous voulez, pour les gens qui sont là et qui veulent développer l'islam, enfin l'islam violent.
Deux mots, je veux rebondir sur ce qu'a dit évidemment Laurent, c'est qu'il y a que les prisons françaises sont dans un état de dénuement absolu. Donc on parle de rapport... arrivé, mais il y a eu un rapport de la Commission européenne qui date d'il y a quelques années et qui montrait que la France était au dernier rang
pour
son système carcéral en Europe. Oui. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je pense que évidemment, au-delà des problèmes de moyens, il y a aujourd'hui un problème à l'intérieur du gouvernement. Je ne suis pas certain que la garde des Sceaux puisse se maintenir dans un gouvernement avec les discours qui sont les siens. Il me paraît aujourd'hui, entre ce que vient de dire Manuel Valls à l'Assemblée, ce qu'a dit Mme Taubira à Fresnes, il y a quand même un désaccord qui montre qu'elle ne peut pas rester longtemps garde des Sceaux dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et puis je dirais enfin qu'effectivement, nous avons un problème. Moi, je suis plutôt pour le regroupement des plus dangereux. Nous avons un problème de fond qui est est le clergé qui prend la parole dans les prisons. Il n'y a pas de clergé officiel dans l'islam sunnite. Par conséquent, n'importe qui peut s'improviser imam. Le problème, il est le contrôle de la parole enseignante dans les prisons lorsqu'il s'agit d'islam.
Seulement dans les prisons à ce moment-là.
Et pas que dans les prisons, c'est un problème d'éducation générale.
Justement, à propos d'éducation, on en dit un mot dans un instant. On va parler de ces minutes de silence qui ont été largement perturbées dans les écoles la semaine dernière. On va essayer d'en tirer... les leçons, en tout cas, essayer d'expliquer tout ça.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
On refait le monde donc à 19h52 sur RTL avec Xavier Couture, avec Jean-Christophe Buisson, avec Hélène Pilichowski et Laurence Parisot. Ce sont des mots que les enseignants auraient préféré ne pas entendre. Ils ont été prononcés pendant la minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. Moi, je suis du côté des tueurs, ou encore... ils l'ont bien cherché. Le ministère de l'Éducation parle de 70 établissements touchés par ces incidents, mais pour beaucoup, les perturbations sont bien plus nombreuses. Alors, qu'est-ce que ça dit de l'école, de la jeunesse? Que faut-il faire, Xavier Couture?
Ça dit que nous sommes dans un échec constaté d'intégration d'une communauté que nous avons fait venir dans les années 50, 60, 70, et qui aujourd'hui se retrouve lâchée par... la société française, lâchée en particulier par l'éducation. Il faut affronter cette dure réalité qui est que malheureusement, au cours des 20 ou 30 décennies qui viennent de se découler, nous avons investi beaucoup trop d'argent sur le collège et passé sur le primaire, là où se forme le socle nécessaire pour apprendre à lire et à écrire et à partager une culture commune. Même si cette culture n'est pas uniforme, mais une culture commune, être capable de parler, d'échanger. Donc Jacques Attali le dit, je ne fais que répéter ce qu'il raconte, mais honnêtement, tant que nous n'aurons pas pris conscience que c'est là que tout se joue, dans les premières années de la vie, que nous sommes capables de donner une langue et une capacité d'échange à des jeunes qui évidemment sont élevés dans des familles où la langue française n'est pas la première langue pratiquée, eh bien nous serons dans cet échec où effectivement lorsqu'arrive un moment dramatique, eh bien les élèves se lèvent et disent dans le fond, moi je ne fais pas partie de votre famille.
Et s'il y a des moyens à mettre en œuvre, puisqu'on parle toujours de moyens, c'est là qu'il faut les mettre. Tous les enfants d'un milieu à peu près, simple en France, arrivent à apprendre à lire. Ceux qui n'arrivent pas à apprendre à lire et qui font finalement des bataillons, on s'en aperçoit, ce sont ceux qui sont dans des difficultés familiales. Les enfants dont la mère est battue chez elle, dont le père rentre tous les soirs ivrogne, qui font pas de devoirs, qui restent dans les marches des escaliers à l'heure où les autres font leurs devoirs chez eux, et bien c'est là qu'il faut faire des moyens. Et on peut mettre des enfants de lieux favorisés 30 dans une classe, et là il faut les mettre 10 dans une classe et s'intéresser à eux avant tout. Et je suis étonnée que Nadja Vallaud-Belkacem ne fasse pas davantage entendre sa voix en ce moment.
Elle dit qu'elle réfléchit à la question et qu'elle ne veut pas parler trop vite.
Je trouve qu'elle n'a pas beaucoup fait entendre sa voix depuis qu'elle a été nommée.
Bon, alors moi je vais défendre Nadja Vallaud-Belkacem qui fait la promotion notamment de la charte de la laïcité dans toutes les écoles et on sait encore plus aujourd'hui qu'il y a une semaine à quel point c'est important. Deuxièmement, j'insisterai sur le fait majeur. Le fait majeur, c'est que une écrasante majorité d'élèves, y compris d'élèves musulmans, ont respecté.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Je sais, Marc-Olivier, que vous le savez, mais je crois qu'il faut le dire. Et que ce sont des faits minoritaires, peut-être dans beaucoup d'endroits, mais même 70 établissements, je n'ai plus à l'esprit le nombre exact d'établissements scolaires en France. Mais
60 000. C'est...
Bravo, merci beaucoup. Donc, vous voyez les proportions. Ensuite, évidemment, là, je crois que nous sommes tous d'accord, je l'ai dit dès le début, nous avons un grand problème d'éducation nationale. Ça, c'est la grande réforme, c'est la mère de toutes les réformes, c'est ce que aucun candidat à aucune élection présidentielle de ces 20 dernières années n'a voulu sérieusement affronter.
Je prends la parole une seconde, Christophe, juste pour dire que, pour revenir sur ce qu'on a dit à propos de la laïcité de Najat, je pense qu'il est important de faire passer ce message à nos amis musulmans, la laïcité n'est pas l'ennemi de l'islam. Oui. Et ça, nous l'avons loupé.
C'est vrai, mais elle a besoin d'une nouvelle expression, la laïcité, compte tenu de l'importance de l'islam.
Tout ça est gentil, la charte de la laïcité, mais on ne peut pas faire l'économie d'une notion qui a quitté l'éducation nationale depuis des décennies, qui s'appelle l'autorité. Et en l'espèce, dans cette affaire, le seul moyen d'en finir avec ce type d'attitude, c'est de faire preuve d'autorité de la part des profs, mais pas seulement des profs. Les profs ne peuvent pas tout. C'est parce qu'il y a beaucoup de profs qui dans les 10 dernières années, depuis le 11 septembre, ont dénoncé ce type d'intervention de leurs élèves. Et qu'est-ce qui arrive? Le proviseur, ensuite les parents viennent en disant, le prof, il a mal parlé à mon fils, il a insulté l'islam, et le proviseur l'écrase. Et quand il n'écrase pas, c'est au-dessus que ça, c'est l'administration générale écrase. Donc à un moment donné, il faut être autoritaire avec ces choses-là, mais c'est un mot qui est tabou dans l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale est gangrénée par des syndicats, par une culture de la non-autorité. Je suis désolé.
Moi, je pense que l'enseignement de la langue française est vraiment l'objectif premier qu'on devrait tous se donner, parce que c'est difficile d'avoir de l'autorité auprès de jeunes garçons qui font 1m80 et qui comprennent à peine les mots et les concepts qu'on leur dit. Et j'ai un témoignage que je voudrais partager avec vous. Un officier de police que je connais bien, en dehors de ses heures de travail, essaye d'apprendre, je dirais, la sociabilité à des jeunes de banlieue. Ça fait des années qu'il fait ça, en leur enseignant la pratique du sport. Et il est en train de renoncer tellement... Lui, officier de police, qui est engagé et pédagogue, n'arrive pas à se faire entendre et même à se faire comprendre.
Rebondissons sur ce qu'a dit Jean-Christophe, l'autorité à l'école, franchement,
et la langue,
c'est un point de base.
Et la langue française.
Mais ça va avec.
Allez, merci à tous les quatre. Merci à Laurence Parisot, à Xavier Couture, à Jean-Christophe Buisson, à Hélène Pilichowski. Après le flash de 20h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec et mon héros, Francis Zégut.